Bonjour à toutes et à tous, Didier, pour un dernier rendez-vous compte de la saison 2024-2025. Un rendez-vous compte dans lequel on va parler famille, enfants, vacances et aussi art avec notre chroniqueuse illustratrice attitrée, Marine Gauvin. Dans notre précédent rendez-vous compte, spécial chronique sur le thème de la famille, certains de nos chroniqueurs ont été si inspirés que le temps a manqué à notre illustratrice freelance et écologique, Marine Gauvin, pour nous faire part de sa carte postale sonore et même tonitruante adressée aux parents. On va donc t'écouter maintenant, Marine, mais à quoi ça va servir? C'est justement la question que tu entends souvent.
Mais à quoi ça va te servir? Eh oui, voilà une question qui revient assez souvent sur les marchés de créateurs lorsque des enfants se montrent particulièrement intéressés par mes cartes postales illustrées ou autres et qu'ils souhaitent en acquérir une. Et voilà ce que leurs parents leur répondent. Mais enfin, à quoi cela va te servir? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est vrai après tout. Il ne pourra pas jouer avec, il ne pourra pas les manger, même si ça pourrait être un concept, il ne pourra pas s'habiller avec.
Donc, à en croire ses parents, l'art, c'est inutile, pas vrai? L'art, c'est futile, ça sert à rien?
Et pourtant, pendant le premier confinement de la pandémie de Covid-19, vers quoi s'est-on tourné pour ne pas devenir fou? Et pourtant, enfant, qu'est-ce qui nous marque? Alors l'adulte, ferme fort les yeux. Et souviens-toi. Souviens-toi ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant. Il y a fort à parier qu'il y avait de l'art pas loin, quelle que soit la forme. Les histoires bercent nos enfances. Nous avons, pour beaucoup, grandi avec des albums. Les illustrations et les histoires nous ont aidés à comprendre le monde, à nous évader, à réfléchir. Pour certains, peut-être, à fuir un quotidien trop brutal. Certains albums ont été si souvent lus et relus que les pages se sont cornées, détachées. Ces histoires nous ont donné envie d'en raconter d'autres, de se mettre au centre d'un récit. L'enfant, avec ce qui lui tombe sous la main, peut se confectionner des costumes, s'imaginer des mondes, recréer un espace avec ses super-héros, ses amis de papier du quotidien. Chaque porte d'entrée dans une forme artistique, quelle qu'elle soit, nous permet de mieux appréhender le monde. L'art, c'est ce qui fait que la vie est moins fade et nous rend plus empathiques.
Alors l'art, on s'en doute, Marine, a beaucoup compté dans ta vie et bien sûr dès ton enfance.
Il y a des albums jeunesse qui m'ont durablement marqué en effet. Ceux d'Ernest et Célestine par exemple. Mon album préféré de la série était celui où Célestine avait perdu son doudou et Ernest, face au désarroi et à la tristesse totale de Célestine, lui en avait confectionné un nouveau. L'amour d'Ernest pour Célestine à travers ce geste m'avait transportée, émue, à un point que ça me donnait envie de pleurer qu'un amour soit si grand. Je trouvais les dessins esquis, incroyables, d'une finesse et d'une sensibilité magnifiques. Quelque part, je crois que ces albums et le fait d'avoir une mère artiste peintre m'ont donné envie de dessiner. Il y avait aussi un livre incroyable sur un petit garçon qui met son cheval de bois mais lui en voulait qu'il ne soit pas vrai, jusqu'à ce qu'un jour le cheval de bois prenne vie. Je me souviens des aquarelles sublimes de ces chevaux, extrêmement vivantes, vibrantes, sauvages, prêtes à galoper, à s'évader du livre. Mon enfance est jalonnée de ces albums aux illustrations incroyables. Quand je les redécouvre, adulte, je ressens toute la joie, l'émerveillement de la petite Marine qui suivait du bout des doigts le tracé des illustrations, comme pour mieux les lire, les ressentir.
Mais oui, parce qu'en fait, une illustration, ce n'est pas juste une illustration.
C'est tout un monde intérieur qui se met en place. On s'émeut avec les personnages. Alors, quand votre enfant semble complètement subjugué par ce que je fais, n'y voyez pas une quelconque futilité, car ce n'est sans doute pas juste un dessin qu'il voit. C'est qu'il y a quelque chose qui l'a interpellé, lui, personnellement, qui a fait écho en lui. La beauté n'est pas à négliger. Qu'est-ce qui lui parle? Qu'est-ce qui le touche? Ce qu'il voit, ce n'est pas de la pop culture. Il n'a donc aucun référentiel face à mes œuvres. Et quand ses parents lui répondent « Mais à quoi ça te sert ?» ça pourrait lui donner la sensation qu'il n'a pas le droit d'aimer ça, que ce n'est pas important, pas suffisamment en tout cas pour qu'on s'y arrête et qu'il devrait passer à autre chose. Que ce qu'il a ressenti, ce n'est pas juste, pas vrai, car non approuvé par ses parents qui lui font comprendre que ce n'est pas intéressant. Nous, on préfère que tu aimes quelque chose d'autre, avec lequel tu pourrais t'amuser. Tiens, ce sabre laser Star Wars, par exemple, c'est mieux, non? Quelque chose de plus conventionnel, où la société l'attend au tournant. C'est peut-être pas grand-chose, cette carte postale. Mais ce pas grand-chose peut ne pas être anodin du tout. Ça peut lui ouvrir d'autres horizons. Lui donner envie de dessiner, d'ailleurs, d'expérimenter l'art visuel. Récemment, j'ai reçu par WhatsApp une photo d'une illustration d'une fillette de 10 ans qui avait repris l'illustration d'une de mes cartes postales que sa grand-mère lui avait offert. L'illustration était super, elle s'en était bien tirée, surtout avec l'aquarelle. Et j'étais très contente de voir que ma carte avait servi de support à son dessin, qu'elle l'avait utilisé pour apprendre à dessiner. Mes cartes, et mes autres œuvres d'art parlent aussi du rapport à la nature. Quand un enfant flash sur une de mes illustrations de tétralyre, j'avoue que ça me fait un peu mal d'entendre ses parents lui dire « Non mais attends, on t'a déjà acheté beaucoup de choses, puis bon, qu'est-ce que tu vas en faire ?»
Comme si l'intérêt que l'enfant portait à cet animal sauvage n'était pas intéressant.
Or, ce petit tirage peut être sujet à discussion. C'est quoi un tétralyre ? Où est-ce qu'il vit ? De quoi a-t-il besoin pour vivre ? Comment peut-on faire pour le protéger ? En plus de servir de décoration pour sa chambre et d'une manière non onéreuse, ce peut être une porte d'entrée vers la nature, l'écologie. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand elle tombe amoureux d'une œuvre d'art. Mais cette chose est belle, puissante. Alors pour 3,50 euros ou 5 euros, ce serait dommage de l'en priver.
Ouais, dommage en effet, Marine, de se priver et de priver les enfants de tes illustrations, si délicates, si porteuses de sens, si essentielles. Merci Marine. Tu nous rappelles comment on peut te suivre sur Internet et pas seulement d'ailleurs ?
Et bah sur mon site www.marinegauvin, donc Gauvin, G-A-U-V-A-I-N.com, et vous pouvez aussi me suivre sur ma newsletter, le lien est sur le site.
Merci Marine.
Au plaisir.
À bientôt.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Après Marine, Marine Gauvin qui rappelait aux parents que l'art, ça sert à quelque chose. J'ai le plaisir de recevoir M. Bruno Conti, secrétaire général de la Fédération du Val d'Oise du Secours Populaire, et aussi Louise, qui participe aux différentes opérations du secours dans le Val d'Oise. Alors M. Conti, vous allez nous expliquer, j'imagine, que la solidarité, notamment envers les familles, non seulement ça sert à quelque chose, mais c'est indispensable. Bonjour M. Conti.
Bonjour, bonjour à tous. Oui, effectivement, la solidarité, c'est vraiment indispensable pour les familles que nous aidons. Le secours est très connu pour l'aide alimentaire qu'il peut apporter aux familles, mais c'est aussi une aide autre qu'on peut apporter, comme une aide aux vacances, aide à la santé, aide à la culture. Ça fait partie intégrante de notre action de solidarité et d'aide aux personnes en difficulté. C'est primordial pour nous.
Alors, le secours populaire, avant on disait secours populaire français. Maintenant, c'est Secours Populaire, avec aussi une branche internationale, de toute façon.
Ah oui, c'est aussi quelque chose que peu de personnes savent, c'est que nous, on intervient sur toute la France, mais également à l'international, avec une particularité par rapport à d'autres associations, c'est que nous, on intervient avec des partenaires locaux. Je donne toujours l'exemple de l'Ukraine ou du Liban. Le Liban, quand il y a eu la grosse catastrophe, l'explosion, on est intervenu rapidement par un financement auprès d'une association qui était là-bas sur le Liban et qui a pu intervenir rapidement et efficacement. On n'a pas de bénévoles du Secours Populaire qui interviennent sur les lieux des catastrophes ou des guerres. On s'appuie toujours sur des partenaires qu'on connaît et qu'on suit depuis des années. Donc ça peut être pour le Liban, pour Gaza par exemple, c'est l'association PMRS que l'on accompagne et qu'on suit régulièrement. Et régulièrement, on envoie des financements pour PMRS puisse aider les Gazaouis en termes de sécurité et d'hospitalisation.
Voilà, donc une philosophie, si je puis dire, inspirée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et avec pour devise
ouais, tout ce qui est humain est nôtre. C'est voilà. Une devise qui résume toute notre action, à vrai dire.
La Fédération du Val d'Oise est une fédération importante.
Fédération de Valois, c'est une fédération importante. Je peux vous donner quelques chiffres. C'est en gros 1400 bénévoles actifs sur le Val d'Oise. C'est une trentaine d'entités locales qui sont réparties sur tout le Val d'Oise. Et on aide en gros 20 000 personnes par an.
C'est énorme.
C'est pas une petite fédération. C'est une petite fédération côté Île-de-France. Mais c'est une grosse fédération sur l'ensemble du territoire.
Et vous accordez une place particulière aux jeunes ? Aux jeunes bénévoles, mais aussi aux jeunes qui ont besoin d'aide, évidemment.
Tout à fait. Les jeunes, c'est l'avenir du secours et l'avenir des associations en termes de bénévolat. Donc, effectivement, on a un petit groupe de jeunes qui nous aident ponctuellement. Alors, ils n'ont pas les mêmes contraintes qu'un bénévole un peu ancien qui est disponible toute la semaine. Eux, ils interviennent plutôt en week-end. Donc, ça, c'est pour les bénévoles. Et puis, on aide aussi beaucoup de jeunes comme les étudiants. On va ouvrir une deuxième antenne étudiante sur Cergy-Pontoise au mois de septembre. Elle va commencer dans les semaines qui viennent pour être inaugurée en septembre. Mais on s'aperçoit qu'il y a énormément d'étudiants qui sont en grande précarité.
De plus en plus peut-être.
Totalement. C'est pour ça que nous, on ouvre des antennes régulièrement.
Louise, tu veux confirmer ?
Je confirme, moi-même étant étudiante, Je sais que j'ai pu, je suis à la fin de mes études là, et je sais que j'ai pu vivre assez bien mes années d'études grâce à mes parents qui étaient derrière moi. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance et ce droit entre guillemets, ça peut être compliqué, notamment niveau logement et notamment du coup qui peut avoir des répercussions sur leurs études puisqu'ils ont, ils sont obligés de travailler potentiellement à côté. Donc de louper des cours et tout s'accumuler, ça peut être un problème pour eux.
Voilà, logement, alimentation, bien sûr.
Tout à fait. Logement, on est moins présent en termes d'aide au logement. C'est-à-dire que nous, on accompagne surtout les gens pour les aider à trouver un logement. On n'a pas de logement. Il y a certaines associations qui ont des logements. Nous, on n'en a pas. Mais on essaye, avec nos contacts qu'on peut avoir à droite et à gauche, de pouvoir aider les personnes à se loger. Oui.
Louise, tu étais étudiante à quel à Cergy?
Pas du tout. Je viens de Normandie.
D'accord.
J'ai fait mon master à Caen, un master de sociologie. Mm-hmm. Et du coup, là, je suis stagiaire actuellement à la Fédération du Val d'Oise pour un stage de fin d'études.
D'accord. Bienvenue à la Normande.
Merci.
Parmi les actions proposées par le Secours Populaire, il y a par exemple un bibliobus.
Alors, ce n'est pas tout à fait un bibliobus, on parle plutôt de Solidaribus. Solidaribus, c'est une antenne mobile, à vrai dire. Je vous ai dit que tout à l'heure, on avait une trentaine d'entités locales qui étaient réparties sur le département. Mais dans certaines zones, on n'a pas d'accès, on n'a pas de locaux, donc on utilise un camion qui sert d'accueil et de distribution. Actuellement, il est principalement centré sur les villages du Vexin. Mais depuis un mois, on commence à travailler avec les hôtels sociaux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des hôtels sociaux qui sont répartis sur tout le département et qui sont souvent très éloignés des lieux pour se nourrir, pour se déplacer, etc. Et là, on a commencé une campagne avec l'hôtel social de Goussainville et de Louvre. Et là, c'est le Solidaribus qui se déplace et qui aide les personnes en difficulté.
Et puis des relais écoute santé.
Alors là, c'est un deuxième camion, effectivement, un deuxième véhicule mobile. Je vous ai dit tout à l'heure que l'aide aux personnes en difficulté, c'était l'alimentaire, mais ça pouvait être aussi la santé, etc. Le relais écoute santé, lui, il va accompagner les personnes pour leur permettre d'accéder à leurs droits ou pour les aider à trouver un médecin qui accepte de pas payer de prestations ou un hôpital qui peut traiter les personnes. C'est principalement de l'aide et de l'accès aux droits.
Et est-ce que vous faites, par exemple, de l'apprentissage du français dans les études? Oui.
Vous savez tout,
c'est
je crois.
Je prépare.
Oui, effectivement. Ça, c'est aussi une de nos actions qui s'adresse plutôt à des personnes qui sont arrivées en France. Et il y a toute une équipe, une dizaine de personnes qui proviennent très souvent de l'éducation nationale et qui font ce qu'on appelle du français langue étrangère. Ça permet à des personnes, des migrants qui arrivent à essayer de comprendre le français, à essayer de trouver à s'exprimer pour demander, pour se déplacer en région parisienne, etc. Français langue étrangère, c'est environ 11 bénévoles qui aident les personnes en difficulté à mieux comprendre le français, à apprendre le français par des jeux, mais aussi par des visites. Tout à l'heure, je parlais aussi de culturel. Très souvent, ce groupe-là emmène les apprenants dans des lieux un peu particuliers, comme le château de Versailles. Récemment, ils ont été à la Philharmonie. Et ça leur permet effectivement ça leur sert de support à leurs cours pour faire expliquer aux jeunes apprenants le français et qui se débrouillent mieux comme ça.
Et toi, Louise, alors quelle est ton expérience en tant que stagiaire au Secours Populaire du Val d'Oise?
Alors moi, je suis référente pour la JOV de cette année.
On va en parler justement, la journée des oubliés des vacances.
Des vacances, oui. Exactement. Et je m'occupe également du banquet des cheveux blancs. Et je m'occupe un petit peu de toutes les vacances, un petit peu les départs de vacances des familles.
Le banquet des cheveux blancs, je ne connaissais pas ça par contre. Qu'est-ce que c'est?
C'est une sortie destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus, puisqu'eux aussi connaissent la précarité et également l'isolement. Donc ça leur permet de se retrouver. Donc c'est une sortie régionale pour toute l'Île-de-France.
Et elle aura lieu où et quand?
Alors cette année, elle a lieu à Pantin le 6 août.
D'accord.
Voilà, donc c'est une sortie en bateau le matin. Le midi, ils se retrouvent dans un restaurant qui s'appelle le Relais Solidaire, donc à Pantin, pour un repas dansant.
Et toi, tu t'occupes de l'organisation?
Exactement, donc de l'organisation donc, du Val d'Oise, évidemment. Donc voilà, donc on est 35 à partir. Donc voilà, donc je m'occupe des inscriptions, un peu de motiver toutes les entités à faire partir donc leurs personnes âgées et ensuite donc évidemment de tout ce qui est transport, tout ça. Donc voilà.
Il faut que tout soit au point.
Exactement.
Voilà, alors donc le Secours Populaire organise aussi régulièrement des grandes sorties festives pour les familles et les enfants. Par exemple, à Thoiry, récemment, au mois de mai.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une action forte du Secours de dire on sort un peu de l'alimentaire, on essaye de permettre à des personnes en difficulté de faire autre chose, de découvrir autre chose, d'avoir du temps à soi pour faire un break, pour voir autre chose. Et effectivement, on a fait une sortie au mois de mai à Thoiry. Le parc était privatisé pour le Secours Populaire, c'est-à-dire que tout le parc était réservé aux personnes du Secours, et il n'y avait pas loin de 4000 ou 5000 personnes, si mes souvenirs sont bons. Ça fait une bonne centaine de cars sur Thoiry. Ça s'est très bien passé. C'est super intéressant aussi pour nous, bénévoles, de voir que les gens apprécient et ressortent avec des... Que ce soit les enfants ou les parents, parce que là, c'est une sortie familiale. On voit les familles et les enfants qui ressortent heureux comme tout. Ils ont découvert les tigres. Ils ont fait le pique-nique sur le gazon de Thoiry. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et ça change aussi le lien qu'il peut y avoir entre les bénévoles et les familles aidées. Quand une famille vient chercher un colis alimentaire, nous, on essaye d'aller un peu plus loin. Et le fait de travailler avec ces personnes-là et de les retrouver ensemble, puis on discute entre les bénévoles et les personnes aidées, égal à égal, et on a le lien et le contact est complètement différent.
Oui, puis on peut signaler aussi qu'un jeune qui est pris dans ce système de sortie, de relations, même avec des plus grands, bah, ce n'est pas ce jeune-là qui va peut-être commettre des choses irréparables, commettre des actions contre lui-même ou contre les autres. Un jeune qui est bien intégré dans une structure, qui a accès à la culture, qui a accès à la solidarité et au partage, c'est un jeune qui est en bonne voie, on va dire, ou qui s'investit aussi dans un mouvement. Voilà.
Oui, c'est tout à fait l'éducation populaire. Et nous, ce qu'on apprécie aussi, c'est quand les personnes aidées deviennent bénévoles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes aidées qui deviennent bénévoles et qui aident les autres et qui aident les bénévoles en place. Et c'est vraiment, c'est là de l'éducation populaire. On est en plein dedans.
Une récente sortie aussi à Disneyland.
Ah oui, c'était un grand jour, ça aussi. Nous, au Secours Populaire, on travaille avec des grandes actions, des grandes campagnes annuelles. Et à Disneyland, c'était au mois de mai, il y avait le lancement de la campagne vacances. Et Disney a invité 800 personnes à Disney. Il y a eu effectivement une conférence de presse liée au lancement de la campagne. Mais c'est pareil, on s'est retrouvés avec des bénévoles, avec des familles aidées, avec des volontaires de Disney qui ont accompagné toutes les personnes autour de Disney. Et c'est vraiment quelque chose aussi pareil. Moi, ça me ressource à chaque fois. Je suis désolé de le dire, mais chaque fois que je fais une grande action comme ça et que je vois les yeux des personnes ou les yeux des gamins qui sont heureux comme tout, ça ressource et ça redonne du peps.
Un événement qui a été couvert par IDFM.
Tout à fait.
Notamment Christophe,
la matinale. Tout à fait. Christophe, je l'ai rencontré là-bas sur Disney. Il m'a interviewé à la fin de la journée. Mais effectivement, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est la campagne et c'est cette grande action vacances qui est importante. Parce que pour le Secours Populaire, Louise en a parlé un petit peu. Elle a expliqué qu'elle était référente JOV, mais elle travaille aussi sur toutes les vacances. Par exemple, sur le Val d'Oise, il y a quand même 32 familles qui vont partir en vacances grâce au Secours Populaire. Il y a des enfants qui vont partir en colo. On a parlé tout à l'heure de la journée des banquets des cheveux blancs. Il y a des jeunes qui vont partir sur Cabourg, au bord de la mer, au mois de juillet, une journée pour passer une journée à la mer. Donc il y a plein de choses comme ça. Et puis il y a cette grande journée de la JOV du mois d'août dont on va certainement parler.
Voilà, le 20 août 2025. Alors c'est une journée de ouf. C'est le slogan officiel qui figure sur l'affiche. Alors, qu'est-ce que c'est que ces journées de ouf qui s'annoncent le 20 août ?
Cette journée de ouf, c'est quelque chose d'important. Nous, on organise tous les ans ce qu'on appelle la JOV pour les enfants. Et sur l'Île-de-France, on se regroupe, toutes les fédérations d'Île-de-France, et on va souvent, on va soit à Cabourg, soit à Deauville pour passer une journée à la mer. Cette journée de 2025, c'est important parce que c'est les 80 ans du secours. Et tous les 5 ans, on organise une grande journée nationale sur Paris. Alors, ça fait... Là, on va le faire sur le Champ de Mars. Donc l'idée, c'est de regrouper en gros 80 000 personnes sur le Champ de Mars.
80 ans du secours,
80 000 personnes.
Sur le Champ de Mars.
Sur le Champ de Mars, qui sera complètement privatisé et sécurisé. C'est une journée qui se compose, se transforme en deux grandes parties. C'est une première partie le matin où on va visiter des lieux emblématiques de Paris, parce qu'on va se retrouver avec des enfants qui viennent de Marseille, de Nantes, de toutes les grandes régions de France. Il y a aussi des enfants étrangers qui sont là. Et l'après-midi, bah, c'est vraiment l'après-midi de ouf sur le Champ de Mars, avec plein d'animations et puis un super concert qui va faire exploser le Champ de Mars.
Un karaoké géant.
Karaoké géant, tout à fait.
Avec quand même aussi, je vois, une boîte aux lettres des rêves.
Oui, c'est-à-dire que pour permettre à 80 000 personnes sur le Champ de Mars de faire des choses, il y a plein d'actions qui ont été menées. Mmh. Et il y a plein d'actions, dont celle-là, c'est une boîte aux lettres de rêve où les enfants vont pouvoir mettre un petit mot, poster la carte, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont faire du sport, il y en a d'autres qui vont découvrir plein de choses. C'est vraiment une organisation d'enfer qui est faite par l'Union nationale. Nous, on suit simplement le flot, mais c'est vraiment quelque chose pour nous très important pour bien montrer quand même qu'il y a quand même un enfant sur trois qui ne part pas en vacances. Donc c'est l'objectif. Ça va être que des enfants. Donc il va y avoir entre 50 000 et 60 000 enfants, plusieurs milliers d'accompagnateurs pour ces personnes-là, pour ces enfants-là. Et puis, ça va être une journée de ouf.
Oui, voilà, 60 000 enfants, dont 3 000 enfants venus des 5 continents.
Tout à fait.
Les enfants ça aussi, c'est assez énorme.
Les enfants étrangers, tout à l'heure, je vous ai dit que l'international, on travaillait avec des partenaires locaux. Et c'est via ces partenaires locaux et via ceux qu'on a aidés qu'on a invité des enfants, que ce soit de Gaza, ça va être un peu compliqué, mais du Liban, oui, des Maldives, des pays qu'on aide, oui, pourquoi pas.
Donc c'est dans le cadre des villages copains du monde.
Alors, c'est pas tout à fait ça, les villages copains du monde. Le village copains du monde, c'est une autre action qu'on mène aussi côté vacances, mais l'idée du village copains du monde, c'est de mélanger des jeunes enfants bénévoles, des enfants aidés et des enfants de pays étrangers. Ça fait un mix pour ces enfants-là. Nous, on en a un sur le Val d'Oise. On ne l'a pas fait cette année par manque de directrice. Donc ça, c'est des manques qu'on peut avoir, nous. Mais l'année dernière, on a invité des enfants accompagnés, des enfants bénévoles et des enfants belges qui venaient d'une association que le secours suit. Donc c'est vraiment important parce que ça mélange les pays, ça mélange quelquefois les langues. Et ça donne vraiment quelque chose d'intéressant.
On rappelle la date de cette journée de ouf.
Le 20 août 2025. Mercredi voilà. 20 août 2025.
À Paris.
Au Champ de Mars. Voilà.
Danser ça, tes rapports avec lui, tous les matins, tu les saisis. Chance pour les enfants qui restent là.
Louise, est-ce qu'il y a une image forte qui te vient comme ça de ton expérience, une rencontre, une action?
Moi, je trouve ça beau parce que justement, avant, donc là, je suis stagiaire, mais mon objectif, c'est après aussi travailler dans une association. Mais pendant longtemps, j'ai beaucoup voulu être éducatrice spécialisée. Donc, auprès des enfants de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et je sais que, justement, lors de cette journée, en fait, certes, les enfants qui sont invités sont des enfants donc, qui sont accompagnés par le Secours populaire, mais on peut également ramener des enfants de l'aide sociale à l'enfance parce qu'eux aussi n'ont pas forcément accès et ce droit aux vacances. Donc voilà, c'est vrai que c'est une belle image et je trouve ça très important pour ces enfants parce que c'est durant cette période justement où la socialisation est très importante et se faire des amis et découvrir la culture parce qu'on oublie aussi que là on est à Paris, donc les enfants potentiellement de l'Île-de-France ont accès à la culture, mais moi, je viens d'une région, de la Nièvre. Et dans cette région-là, l'accès à la culture est très difficile. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont été placés durant leur enfance et où, justement, cet accès à la culture, ils n'en ont pas eu le droit. Donc non, c'est une chance pour eux et c'est important. Un droit qu'ils doivent avoir et qu'ils n'ont pas forcément.
Voilà, Monsieur Bruno Conti, un dernier mot. Comment est-ce qu'on peut aider le Secours populaire ? Plusieurs façons ?
De plusieurs façons. C'est devenir bénévole. Ça, c'est le premier point. On a toujours besoin de bénévoles. Plus on veut faire d'action, plus on veut développer la solidarité, plus on a besoin de personnes pour nous aider. On a besoin de compétences aussi. Ça, on ne le dit pas suffisamment, mais quelquefois, quand on lance un projet, il faut être capable de porter un projet. Donc, on a besoin de compétences. On va faire une grande action auprès de nous, des partenaires, des entreprises du Val-d'Oise. Donc, on a lancé un projet partenariat où on va aller expliquer aux entreprises quel intérêt de venir nous aider de plusieurs façons, par des dons financiers, par des dons matériels, par des aides des salariés. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, c'est quelque chose qu'on peut... Oui, effectivement, on a toujours besoin de bénévoles. On a toujours besoin un peu plus d'argent pour faire plus de solidarité. Plus les donateurs seront importants, plus on pourra faire de solidarité, plus on pourra emmener les enfants ou les familles dans des lieux culturels, etc. C'est vraiment important, oui.
Alors, des coordonnées pour joindre le Secours populaire ?
Le plus simple, c'est de se connecter sur le site internet Secours populaire du Val-d'Oise. Et là, vous aurez une vision un peu de tout ce qu'on fait. Vous aurez aussi la possibilité de faire des dons financiers. Vous aurez la possibilité de nous contacter. Pour contacter le Secours populaire, c'est facile. Il n'y a qu'un seul numéro. C'est le 01 34 64 20 20. Ou par mail, c'est contact@spf95.org.
Louise, un dernier mot.
Devenez bénévole pour le Secours populaire.
Et ben voilà. Merci à Louise, merci à Monsieur Bruno Conti. Vous êtes responsable de la Fédération du Val-d'Oise du Secours populaire.
Merci à vous.
Ainsi se termine notre dernier rendez-vous compte de l'année 2024-2025. À retrouver en podcast, évidemment, sur le site d'IDFM avec tous les autres rendez-vous compte de l'année. Et quant à moi, Didier, je vous retrouverai avec grand plaisir à partir de septembre sur IDFM Radio, évidemment, pour d'autres rencontres, d'autres destins insolites, engagés et créatifs. Rendez-vous compte.